Dans ces podcasts, j'invite des penseurs, des praticiens, des artistes, des femmes et des hommes dont le travail m'inspire, que j'aime et qui m'aident à vivre. Et j'ai eu envie de partager mes enthousiasmes avec vous. Dialogue parce que je crois à la vertu de l'écoute et au bonheur du partage. Dialogue parce qu'en un temps où tout devient un peu trop formaté et lyophilisé, j'ai voulu prendre le temps d'écouter des personnes qui ont consacré leur vie à penser, à créer, à faire. Dialogue pour permettre à mes invités de déployer leur engagement et leurs convictions sans que leurs paroles soient coupées en petits morceaux. Dialogue pour pouvoir être transformé en les écoutant, transformé par une parole vraie.
Vous avez sans doute entendu parler des Yeux de Mona, ce roman qui a un succès phénoménal, numéro un des ventes en France et dans de très nombreux pays, qu'a écrit mon ami Thomas Schlesser. Ça raconte l'histoire d'une jeune fille. On se demande si elle va devenir aveugle, parce qu'elle a un moment où elle ne voit plus rien pendant plus d'une heure. Et son grand-père décide, comme une forme de thérapie, de l'emmener chaque semaine voir une œuvre d'art au Louvre, au musée d'Orsay, puis à Beaubourg, pour qu'elle voie la beauté, pour qu'elle se forme à ce qui nourrit la vie de manière la plus essentielle. Je ne vais pas vous raconter le roman qui est passionnant, bouleversant par moments, mais c'est aussi une occasion à travers l'éveil de cette petite fille à l'art d'aider le lecteur à lui aussi s'ouvrir à ce qui est de plus précieux dans la peinture. Inutile de vous dire que c'est pour moi essentiel. Ce livre témoigne de tout ce que je défends dans cette chaîne, le fait qu'une œuvre d'art n'est pas juste un objet esthétique ou un objet de compréhension intellectuelle, mais qu'il s'agit pour chacun d'entre nous devant une œuvre d'apprendre à vivre, d'apprendre à être, d'apprendre à devenir un être humain plus profond, plus authentiquement lui-même. Voilà, c'est maintenant sur Dialogue et vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Thomas.
Bonjour Fabrice.
Je suis très heureux de te recevoir parce que ton livre, ton travail m'ont bouleversé parce que tu montres, et je pensais que c'était bien de commencer là, que l'art, ça sauve une vie, c'est essentiel. Et que la forme de roman est une manière de nous aider à comprendre ça. Comment l'art sauve une vie?
Oui. Tu sais, j'ai toujours eu du mal à la fin des années 90, une période qu'on a connue l'un et l'autre dans notre formation intellectuelle. J'ai toujours eu du mal avec tous ces réflexes autoréférentiels qui voulaient que l'art soit au service de l'art, la littérature au service de la littérature, cette espèce de nombrilisme au fond un peu exsangue. À mon sens, l'art est toujours au service de la vie, toujours. Et si tel n'est pas le cas, c'est qu'il y a quelque chose d'un peu manqué. Et au fond, cette idée que j'ai eue en moi très tôt, et avec l'ambition de pouvoir la matérialiser, l'exprimer d'une manière ou d'une autre, elle aurait pu advenir sous forme d'essai, mais ça aurait frappé à côté. Pourquoi ? Parce que c'eût été une démonstration hors sol. Il fallait une démonstration sensible. Et cette démonstration sensible, ce sont les yeux de Mona.
Donc ça, c'est très important, parce que pour la plupart des gens, pour plein de raisons, on est intimidé devant une œuvre d'art. Est-ce que tu voudrais montrer, ton livre part d'une expérience que tu vis toi-même, que quand tu vois une œuvre d'art, tu vas pas là, dans ce qu'on pense, pour accumuler de la culture, pour apprendre des informations, ou même pour une expérience juste esthétique, au sens banal dont on parle, mais qu'il s'agit chaque fois d'apprendre à vivre.
Exactement.
Et ça, c'est une chose qui est peu comprise. C'est ça que je suis tellement touché par ton livre, parce que c'est aussi mon propre engagement. Et les gens ont beaucoup de mal à comprendre ça. Soit c'est intellectuel, soit c'est esthétique, mais les gens ne voient pas que ce n'est pas du tout la question, c'est une question existentielle.
Mais si tu permets, je te dis une chose là-dessus, Fabrice. Tu dis les gens ont beaucoup de mal à comprendre ça, mais au fond, quand tu rencontres des lecteurs ou des visiteurs de musées, tu sais, les musées sont très courus, il y a beaucoup de gens dans les expositions, Mais en fait, quand tu parles avec le public, ce qu'on va appeler le grand public, mais en fait, tu as plein de gens qui intuitivement sont dans les musées parce que ça les aide à vivre. Moi, je suis très, très touché par ça. J'ose dire que je suis un peu surpris parce que j'avais peut-être un préjugé avec quelques doutes, mais en fait, pendant les signatures que je peux faire, mais combien de personnes m'expliquent qu'elles sont, comme elles disent, toujours fourrées dans les musées. C'est pas par snobisme. Ce n'est pas parce qu'elles seraient à la recherche d'une information ou d'une culture pour briller dans les dîners. Pas du tout. C'est parce que, positivement, cela les aide à vivre. Et c'est, je trouve que c'est extrêmement encourageant. Et donc ce livre, en effet, s'inscrit dans cette logique. Alors, bien évidemment, on peut toujours dire par ailleurs que l'art, c'est pour quantité de fractions de la société intimidant. Moi, j'essaye aussi de dire dans le livre qu'il n'y a pas qu'une seule manière de regarder l'art. Alors évidemment, la petite fille qui sert d'héroïne, elle s'immerge quasiment de façon méditative pendant de très longues minutes. Mais après tout, si d'aucuns ont décidé que leur expérience de l'art, ce sera par le prisme d'un téléphone portable ou en courant comme dans Bande à part de Godard dans les galeries du Louvre, ou alors en s'allongeant sur le sol, ou alors simplement en écoutant un guide parler parce qu'il y a besoin d'une médiation, tout est possible. Il ne faut surtout pas culpabiliser les visiteurs, dans les regardeurs dans leur expérience de l'art.
Ça c'est clair que lire ton roman, c'est repartir de cette expérience que chacun peut faire de se laisser appeler par une œuvre. C'est un mot sur lequel tu reviens souvent. L'œuvre nous appelle. Et peut-être tu pourrais raconter des œuvres qui t'ont appelé, une œuvre qui t'a appelé, et raconter un peu qu'est-ce qui se passe dans cette expérience. Parce qu'au fond, ton livre, c'est ça. C'est comment une œuvre nous appelle. Comment se mettre en disposition pour se laisser appeler par une œuvre ?
Oui, j'adore ce terme d'appel. Hein. Pour dire d'abord les choses de manière un tout petit peu théorique, l'expérience de l'œuvre, à mon sens, c'est d'abord une forme d'appel avec un mélange devant l'œuvre de satisfaction et de frustration. De satisfaction parce qu'on va reconnaître quelque chose, on va jubiler devant la qualité de couleur ou l'harmonie d'une composition, et de frustration parce qu'il y a plein de choses qui nous échappent. De sorte que cet appel fonctionne avec ensuite, disons, un certain nombre de lacunes, de trous que l'on va venir combler. Et à mon sens, pour combler, il y a plein de manières différentes d'opérer. Ça peut être par l'acquisition de connaissances sur l'œuvre, en sachant que, à mes yeux, et je vais en dire un mot personnel dans une seconde, à mes yeux, il n'y a pas d'opposition entre la sphère de la connaissance et la sphère de l'émotion. En fait, c'est une interaction permanente et en fait, ça constitue une espèce d'unité insécable. Alors, justement, pour dire un mot de ces fameux appels, moi, je suis venu, j'ai eu des émotions esthétiques jeunes, mais devant, on va dire, des images qui relèvent plutôt de la culture populaire, par exemple des jeux vidéo dans les années 1980. Je viens d'un milieu qui est à la fois aimant et plutôt cultivé, mais pas du tout d'un milieu où il y avait de l'art. Et donc, c'était assez, de ce point de vue-là, c'était parfois un petit peu pauvre. Mais j'avais les jeux vidéo quand j'avais 7, 8, 9 ans et qui ont soulevé en moi des émotions esthétiques. Pas ludique, hein, esthétique. C'est-à-dire, je regardais l'écran, je me disais, waouh, c'est beau. Bon. Et puis, bien plus tard, quand j'ai eu 18 ans, quand j'étais en hippocagne, il y a eu l'obligation d'aller au musée d'Orsay. Et là, pour la première fois, je me sens appelé par l'œuvre de Gustave Courbet. Mais ce qui est très intéressant, Fabrice, c'est que je ne me sens pas tant appelé esthétiquement que intellectuellement. L'œuvre ne m'apparaît pas sensoriellement ravissante. Ravissante au sens vraiment de l'extase qui me ravit à moi-même. Non, elle m'apparaît intéressante. Et Je vais ensuite engager vraiment un travail sur Courbet, d'abord très superficiel, dans le cadre, je ne sais pas quoi, d'un dossier en hypocagne. Et plus tard, je vais livrer une thèse sur lui, longtemps. Et au fur et à mesure de la connaissance de Courbet, donc de cet intérêt intellectuel, eh bien, l'appel qui était d'abord celui d'une intrigue cérébrale est devenu un vrai plaisir, très profond, très puissant sur le plan émotionnel, esthétique.
Existentiellement, qu'est-ce que tu sentais? Qu'est-ce qui t'a appris?
Oui. J'aurais tendance à dire, pour le dire d'un lieu commun, ce que m'a appris Courbet, c'est que la liberté est la valeur cardinale. Voilà. Alors c'est à la fois intellectuellement, sensoriellement, sensuellement, la liberté est la valeur cardinale. Et d'ailleurs, je vais te dire une chose, je crois que au bout du bout du bout, avec chaque artiste, chaque poète, quand on va vraiment dans les tréfonds de ce qu'ils peuvent nous apporter, c'est quand même cette grande émancipation. Et tu vois, je disais, je parlais d'extase. On pourrait avoir une vision de l'extase esthétique comme étant une aliénation, ce qui nous paralyserait. Mais je ne le crois pas du tout. Je crois que l'extase esthétique, le fait d'arriver à être hors de nous-mêmes avec ce je ne sais quoi qui est très difficile à qualifier, du coup, moi, j'ai vécu après devant beaucoup d'autres œuvres, c'est une merveilleuse expérience d'émancipation. Si tu permets, je voudrais vraiment insister là-dessus. Je fais partie de ces gens. Je voudrais ça que notre public, là, aujourd'hui, l'entende. Je fais partie de ces gens pour qui l'émotion esthétique n'a pas du tout été une évidence. Pas du tout. C'est venu petit à petit. C'est venu au gré de quelques efforts et avec une récompense immense. Pour citer un artiste qui t'est cher, je sais, qui est cher à notre ami commun Adrien France Lanor, j'ai mis beaucoup de temps avant que Cézanne ne se lève. J'aime bien cette expression, se lever. C'est une expression des frères Goncourt qu'avait repris Daniel Arras au sujet de Raphaël, où chaque fois, c'est cette idée que l'œuvre, à un moment donné, apparaît dans toutes ses dimensions. Eh bien, Cézanne n'a pas été une évidence dans ma vie. Et aujourd'hui, quand je suis devant un Cézanne, pour des raisons qui ont été celles d'une certaine ténacité devant l'œuvre, comme Cézanne lui-même a fait preuve d'une ténacité extraordinaire pendant toute sa vie pour devenir Cézanne, eh bien aujourd'hui, Cézanne me parle et me parle pleinement.
Voilà. Mais là, il y a plein de choses, on va revenir. Donc là, ce que tu dis, qui est très important, c'est le rapport à l'œuvre n'est jamais, enfin, peut devenir immédiat, peut prendre du temps. Il y a des œuvres qu'on ne voit pas, qu'on voit des années plus tard, on change. Moi, la première fois que j'ai vu Rothko, je me suis dit, mais c'est très en dessous de Barnett Newman, de Pollock. J'ai l'impression de voir qu'un fond sur une forme. Et maintenant, je pleure chaque fois que je le vois. Et donc, c'est clair qu'on n'est pas toujours prêt devant une œuvre, que l'appel ne se fait pas toujours et que c'est lié à la vie. Mais je voulais revenir sur ce que tu as dit, qui me semble la clé. Donc, tu parles de comment tu es d'abord concerné par l'œuvre de Courbet et que ça t'apprend la liberté. Je veux revenir dans ton livre, Botticelli apprend à recevoir. Léonard de Vinci sourit à la vie. Raphaël cultive le détachement. Titien fait confiance à l'imagination. Michel-Ange délivre-toi de la matière. Rembrandt connais-toi toi-même. Vermeer, l'infiniment petit est infiniment grand. Watteau, en toute fête, sur une défaite. Et donc, ce que je trouve impressionnant, essentiel, qui me semble, moi, un des points clés, donc évidemment, c'est une phrase, c'est pas définitif, mais c'est une possibilité sur laquelle je voudrais vraiment insister, que l'œuvre d'art nous apprend à vivre. Donc, je voudrais, si je peux un peu te challenger, dire que je pense qu'on n'éclaire pas complètement en parlant d'émotion esthétique, que c'est un piège. Le piège, c'est qu'on est vraiment, pour plein de raisons philosophiques, on pourrait dire métaphysiques, soit on est dans la pensée, la compréhension, l'émotion esthétique, mais ce dont tu parles et quand tu décris le rapport à l'œuvre d'art. Et c'est ça que je trouve tellement fondamental, que essentiel à dire, c'est que si on prend le temps, l'œuvre va nous dire quelque chose sur la vie, et d'une manière tellement radicale, qui n'est pas juste un slogan, qui n'est pas juste... on vit dans un monde où, voilà, où on a plein de slogans. Et là, l'œuvre d'art, elle nous parle très directement.
Oui, c'est juste... La musique peut avoir cette immédiateté qui nous emporte et qui semble nous parler d'un coup d'un seul. C'est vrai qu'avec les œuvres d'art, il faut prendre sans doute souvent un peu plus de
moi,
temps.
Attends, je dis ça et je crois que moi je suis pas d'accord, parce que par exemple Beethoven, j'ai rien entendu pendant 15 ans. Je comprenais pas en quoi j'avais eu 15 ans pour surmonter quelque chose et réussir à entendre.
Oui.
Et moi, quand j'ai eu 14 ans, j'ai raconté mon expérience, disons, frappante. J'ai vu Kandinsky et j'ai senti, c'était la vraie vie. J'ai senti que par rapport à ma vie, la lumière spirituel de Kandinsky, je me dis ça, c'est la vraie.
Mais c'est intéressant parce que quand je parle avec toi, on a déjà eu l'occasion de discuter, j'ai le sentiment, c'est moi qui te pose une petite question si tu le permets, ce qui te parle et ce qui t'appelle, c'est souvent aussi la peinture dite abstraite. Je me trompe?
Non, parce que je suis très... Kandinsky quand j'étais très jeune. Après, le peintre que j'aime le plus regarder,
c'est Poussin. Oui. Mais Poussin, on en a déjà parlé. Tu m'avais dit quelque chose qui m'avait beaucoup frappé et à laquelle je souscris. Tu m'avais dit ce que j'aime chez Poussin, c'est sa sensualité. Et Poussin est perçu souvent, à tort, comme un artiste intellectuel, très rigoureux, ce qu'il est par ailleurs dans ses compositions, c'est vrai, un artiste savant, ça va de soi. Il y a chez Poussin une sensualité absolument prodigieuse qui en effet constitue, je trouve chez lui, une sorte d'équilibre miraculeux entre les qualités de clairvoyance, de lucidité. Un tableau de Poussin, c'est toujours une sorte de lumière sur la vie et puis en même temps, des corps qui vivent et vibrent vraiment chez Poussin.
C'est clair. Non, puis après, j'adore la peinture du XVIIe siècle.
Ouais.
Et j'aime beaucoup Louise Moyon, que je trouve vraiment... Donc non, il y a plein de choses qui me parlent beaucoup. Mais donc, pour revenir, c'est surtout ce que je veux insister, parce que c'est ce que les gens qui vont lire ton livre vont découvrir ça. C'est extraordinairement pédagogique.
Ouais.
Pour vraiment... Je crois que c'est vraiment... Ton livre, il y a un côté un peu miraculeux, parce qu'on fait vraiment, cette expérience que l'œuvre d'art, chaque fois, il s'agit de se placer autrement dans sa propre vie. C'est ça qui libère. Alors, on a beaucoup de mal à arriver à approcher ça. C'est ça que c'est formidable de le faire par roman, avec une petite fille, comme ça. C'est très bien, ça permet de faire ça. On a beaucoup de mal à dire ça. On est embêté avec ce langage, cette sorte sensible. Moi, je ne crois pas qu'il y ait un seul artiste intellectuel qui pourrait nous toucher, parce que ça ne veut rien dire. On est tellement unitairement un être humain. C'est ça que je trouve que cette dimension existentielle...
Bien sûr.
Je trouve que ton livre montre que l'art est existentiel, que c'est ça qu'il faut dire. Faut dire. Il faut juste... Et la petite fille, comme elle a... C'est une question... elle risque de devenir aveugle, elle va voir ses tableaux... C'est vraiment une forme de thérapeutique. Ça dit bien qu'elle se situe là, c'est un lien d'amour entre son grand-père et elle, il se joue quelque chose de... Tu as mis en forme dans le roman que l'œuvre d'art, ce n'est pas une distraction, ce n'est pas un surplus, ce n'est pas un supplément, c'est quelque chose où l'essentiel d'une existence peut se jouer, et c'est ça qui va se jouer pour elle. Et je crois que c'est ça qu'il faut essayer de rappeler, de dire,
exactement,
de montrer, de partager... Au fond, c'est ça, c'est un partage. Les œuvres d'art t'ont raconté comment ça a commencé, mais après, il y a quelque chose qui se joue de radical et c'est ça que tu réussis à transmettre.
Il y a un mot vraiment fondamental qui est celui de partage. Dans le livre, en effet, l'expérience, c'est une expérience individuelle, soit, mais aussi une expérience à deux. C'est-à-dire que cette petite fille va voir Mona, va voir les œuvres avec son grand-père. et que entre les deux s'opèrent en permanence des dialogues et au fond des partages d'intuitions, d'émotions, de croisées. Le grand-père Henri, qui est disons un personnage qui incarne plutôt l'aspect du savoir, d'une certaine érudition, prend toujours au sérieux, toujours,
c'est vrai,
les remarques de sa petite-fille. Et il fait en sorte d'accueillir. La première leçon du livre, c'est « Apprends à recevoir », je crois vraiment très important dans la vie, savoir recevoir ce que l'autre donne.
Savoir recevoir l'œuvre d'art, savoir accueillir.
Savoir accueillir.
Plutôt que, c'est très beau, parce que ton livre commence là-dessus, au lieu de commencer là, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je comprends, est-ce que je réussis ? Non, d'abord, sache accueillir. Et je trouve ça, c'est vraiment extraordinaire.
Oui, parce que je crois que c'est la clé, puisque quand on sait accueillir, derrière, on sait rendre aussi. Et c'est ce qui permet d'avoir... ce qui permet à notre société, à notre civilisation, d'être vraiment une belle société ou une belle civilisation. Le cycle du don et du contre-don, donner, recevoir et rendre. Mais la pierre de touche entre donner et rendre, c'est recevoir. Et puis, savoir recevoir, c'est apprendre à apprendre. C'est donc potentiellement devenir le plus émancipé possible par soi-même. Et en fait, c'est vrai, entre Henri et Mona, c'est ça que j'ai vraiment voulu mettre en lumière, il y a ce lien où tout ce qui est dit est reçu par l'autre sans préjugés. Devant une œuvre d'art, on a le droit aux projections que l'on souhaite, on a le droit de se livrer à tous les fantasmes possibles, et surtout, vraiment, je voudrais que les gens entendent ça, on a le droit de faire des erreurs. Les erreurs ne sont pas des erreurs. On peut se tromper d'interprétation, on peut se tromper de... Ça n'a aucune importance du moment qu'on entretient le libre dialogue de soi-même à soi-même et de soi-même avec les autres. Et j'allais presque dire de soi-même avec les artistes, les figures invisibles, les voix chères qui se sont tues, comme dit Verlaine, qu'on a devant les yeux. Donc, il y a tout à y gagner. Fabrice, je ne dis pas que c'est facile. Parce que je sais aussi ce que peuvent se dire les personnes qui nous regardent, c'est « oui, mais moi, je n'ai pas accès à ça. Fabrice Midal, Thomas Schlesser, ils disent ça comme si c'était pour eux tout à fait naturel. » Bien évidemment que ça ne l'est pas, bien évidemment que ça demande par moments quelques efforts, quelques médiations. Je ne dis pas que c'est facile, je dis que c'est possible et que la récompense peut être très grande et qu'il ne faut pas s'en vouloir à soi-même si ça prend un peu de temps. Et que le livre est un peu pour ça, pour en faire gagner.
C'est clair. Et donc, ça, c'est la singularité de la peinture par rapport à la musique. C'est que dans la peinture, on peut parler ensemble devant une œuvre.
Ouais.
Y a pas beaucoup, on ne peut pas faire ça devant un film, on ne peut pas faire ça en lisant un livre. Mais dans l'œuvre, c'est beau parce que ce rapport, au fond, quand on aime l'art, mais on aime aussi être avec quelqu'un, en parler. Toi, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce qui te touche? Pourquoi ça te parle? Par où tu vois, ah oui, j'avais pas vu ça, ah oui, d'accord. Et je trouve que c'est une des beautés de la peinture, ce moment-là, c'est une grande force de la peinture.
Grande force de la peinture. La peinture.
Ça se partage.
C'est ça, la peinture qui semble être pure visibilité, en fait, est un moteur de dialogue, de langage, de multiplicité des langages absolument formidable. Je sais aussi que. Tu vois, dans cette espèce de convergence entre les arts, je sais aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent faire, dans l'appel qu'ils ressentent vis-à-vis de la peinture, vont vouloir s'accompagner de musique, justement. Mais n'hésitez pas, bien évidemment. Baudelaire n'aurait pas dit mieux. Allez voir Odilon Redon ou les peintres symbolistes du musée d'Orsay en vous mettant Debussy, et même pas d'ailleurs forcément Debussy, ça peut être du rock des années 70 dans les oreilles. Créez-vous l'expérience esthétique que vous souhaitez. Vous ne trahirez jamais les artistes à créer vous-même votre propre expérience à leur contact. Jamais. D'ailleurs, je crois savoir une chose, je ne suis pas vraiment spécialiste, comme tu l'es, d'Extrême-Orient, et tu vas me dire si je me trompe, mais il me semble que en Chine, l'idée de faire une critique rationnelle d'une œuvre n'a pas tout à fait de sens. Critiquer une œuvre, c'est en fait la passer au crible d'une autre manière, c'est par analogie, par exemple, faire un poème dessus, c'est-à-dire en extraire, se l'approprier artistiquement, esthétiquement et intellectuellement pour en faire autre chose de créatif. Et donc, allez-y, c'est tout à fait possible.
Là, donc, le grand renversement de ton livre, c'est ça, c'est l'œuvre d'art est une présence qui nous appelle, qui nous concerne, qui est liée à notre existence. Sentons-nous libres par rapport à elle et libérons-nous de l'opposition entre sensible, intellectuel, oui. qui barre le terrain. Et même, je trouve qu'on pourrait même jusqu'à la dire, et même l'émotion, quelque chose de plus radical que juste l'émotion. Les gens parlent toujours d'émotion, moi je suis toujours gêné quand on parle d'émotion. Parce que je vais au supermarché, il y a de la musique, des fois je ressens une émotion. Et l'œuvre d'art, c'est autre chose. C'est ce saut dans l'existence, dans la vie, quelque chose me parle, il y a une rencontre. Ouais. Donc ça, je pense que c'est le grand renversement à partir duquel tu écris ton livre. Et à partir de là, je trouve qu'on comprend beaucoup de choses qui sont libérateurs, comme par exemple donc, le rôle et la place de l'histoire de l'art. On pourrait dire que ton livre aussi, c'est remettre l'histoire de l'art à sa place. L'histoire de l'art peut être un enfermement, l'histoire peut être une libération. Alors moi, j'ai fait des études d'histoire de l'art comme toi. Les trois quarts des cours d'histoire de l'art, je ne voyais aucun rapport entre ce qu'on me disait et l'œuvre d'art. Et puis, il y avait des fois un prof qui te parlait et les portes s'ouvraient et il t'aidait à mieux voir l'œuvre d'art. Ouais. Et donc, je trouve que la force de ton livre, c'est d'avoir vraiment travaillé cette question qu'une histoire de l'art peut être complètement... Voilà, on a juste des informations. Moi, des fois, je vois les gens, ils ont un casque sur les oreilles, on leur donne des informations, mais ils ne rentrent pas en présence. Du reste, que fait tes personnages? C'est de rester en silence, de se laisser entrer en présence avec l'œuvre. Et je crois que ça, c'est vraiment important. On voit ton livre à la fois la défiance devant une histoire de l'art qui tourne sur elle-même et la passion pour l'histoire de l'art en tant qu'elle peut libérer, éveiller, être un vrai travail d'intelligence.
Et rappelle-toi, Fabrice, on avait, je crois, découvert à peu près à la même époque, dans sa profondeur et toutes ses dimensions, ce texte de Nietzsche qui est la seconde considération intempestive sur l'histoire, où Nietzsche parle de l'histoire monumentale, de l'histoire critique et de l'histoire antiquaire. En somme, pour le dire assez de façon un peu ramassée, l'histoire antiquaire étant l'histoire locale à petite échelle, l'histoire critique étant le fait de vouloir dénoncer, faire être critique avec soi-même et avec son passé, et l'histoire monumentale étant, pour le dire encore une fois de manière très ramassée, l'histoire des grands personnages. Bon. Et Nietzsche dit que tout dépend évidemment de l'équilibre entre ces trois forces historiques, avec un écueil qui serait à chaque fois de se paralyser soi-même à force de faire de l'histoire. Et Nietzsche, évidemment, considère que l'histoire comme science n'a d'intérêt qu'à partir du moment où elle mobilise notre capacité à faire l'histoire et non pas simplement à faire de l'histoire.
Oui, à rentrer dans la vie.
À rentrer dans la vie.
De l'utilité de la vie.
Exactement.
L'utilité de l'histoire pour la vie.
Exactement.
Et que trop souvent, l'histoire nous empêche d'être vivants.
Exactement. Et donc, c'est vraiment un texte qui m'avait beaucoup vraiment frappé, justement, existentiellement. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire de l'histoire, à étudier l'histoire, je me suis toujours dit, il faudra que ce soit au service de ma capacité, de notre capacité collective à entrer dans la vie. Voilà. Bon, cela dit, j'ai pas relu ce texte de Nietzsche depuis fort longtemps, et il est peut-être temps que je me rafraîchisse un peu la mémoire.
Ce que tu dis, et voilà, ça c'est un peu un des axes, disons, de ce renversement. Ton livre invite à ce renversement. L'œuvre d'art parle de notre existence. Voilà, c'est pas juste un truc intellectuel. Et donc, on parlait de l'histoire de l'art. L'histoire de l'art peut être juste quelque chose qui est lié à la peur de la vie, la peur de cette présence. Au fond, ce qui est très beau, c'est que cet enfant, il a pas peur des œuvres d'art. Il les regarde, il pose des questions idiotes. Il dit, il voit le tableau de Van Gogh et il est à l'envers. Il dit, tiens, ça ressemble au cul d'un animal. Son grand-père dit, c'est étrange, mais oui, tu as raison, il en fait quelque chose. Il part de là, parce qu'il parle de la rencontre.
C'est ça.
C'est une rencontre. Donc, tout ce qu'on dit dans une rencontre est vrai. Et c'est pas le savoir. Le savoir en tant que tel n'est pas garanti qu'on fasse cette expérience.
Mais t'as raison, prenons cet exemple, en effet. Devant Van Gogh, l'église a ouvert. Van Gogh choisit de peindre le chevet. Et donc le chevet, c'est l'arrière d'une église. Bon. Et donc Mona se dit assez naïvement, oui, c'est ça, on dirait les fesses, quoi. Et Henri, au lieu de lui dire, mais écoute, c'est plus sérieux que ça, se dit, mais c'est pas faux qu'il y a quelque chose de charivarique, de carnavalesque, de sang dessus dessous chez Van Gogh. Et donc prenons cette petite intuition un peu infantile, voire un peu naïve, pour en faire quelque chose. Et on peut faire quelque chose d'absolument tout, à condition quand même de jouer le jeu. C'est-à-dire que, par exemple, se contenter du mauvais esprit devant une œuvre d'art, ça ne pas vouloir aller vraiment à sa rencontre, alors là, pour le coup, il y a blocage. Si tu veux, si à un moment donné, tu, 15 fois de suite, tu as quelqu'un qui vient voir une exposition, disons, d'art abstrait, par exemple, et qui dit 15 fois de suite, oui, bah, mon gamin peut le faire, et qui n'accepte pas de jouer un petit peu, là, c'est mort.
Dans le cas que tu décris, qui est un très bon cas, la petite fille, là, c'est le côté un peu génial de ton livre, la petite fille, en disant que c'est les fesses de l'Église, elle parle d'une expérience réelle. C'est-à-dire, c'est pas un refus de l'expérience. Quand on dit mon enfant peut le faire aussi bien, je rentre pas dans l'expérience, je me tiens à distance. Elle dit quelque chose la concernait. Et donc le grand-père peut montrer que si quelque chose vous concerne dans une œuvre d'art, même si ça a l'air dérisoire, c'est un très bon point d'appui pour entrer dedans. Et même quand on n'aime pas une œuvre, c'est-à-dire moi pendant longtemps, je voyais pas Rothko. Mais au fond, ce que je voyais pas va devenir le point qui va m'aider à voir plus tard. Donc, parce que c'est une expérience. Donc, tout ce qui est expérience devant l'œuvre d'art, ce que tu montres, on peut en faire un passage vers quelque chose de plus profond. Et le grand-père apprend quelque chose de la remarque qui a l'air dérisoire de l'enfant. Ah oui, il y a un truc là que j'avais.
Oui, exactement.
Qui est plus profond parce que c'est une expérience. Et l'expérience, c'est ça que, d'un certain point de vue, celui qui est expert comme celui qui est débutant, s'ils regardent pour de bon, ils sont un peu à égalité.
Absolument, absolument. Et j'insiste sur une chose, il n'y a rien de plus jubilatoire que de se livrer à un échange avec quelqu'un qui a envie de découvrir, mais qui n'a pas encore forcément un très gros bagage, et quelqu'un qui a un petit peu plus de connaissances et d'expérience de l'art. On en revient à ce qu'on disait. C'est vraiment, vraiment le vecteur d'un dialogue. L'art et la peinture en particulier, c'est le vecteur d'un dialogue. Ceci étant, si tu permets, j'ajoute quand même qu'il n'y a pas que de la peinture dans le livre. Il y a aussi de la sculpture, de la photographie, des installations même. Voilà, toutes les formes d'art, toutes les formes des arts visuels, ils sont représentés.
L'autre point, quand on fait ce renversement, c'est que ce qui importe aussi, c'est l'amour. Au fond, ton livre est habité par l'amour de la peinture. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi qu'aimer la peinture ?
Si tu permets, Si tu permets, je prends un tout petit peu, je fais d'abord un petit pas de côté, et puis ensuite je vais répondre à ta question. Ce livre n'est pas un livre des bons sentiments. Je n'aime pas tellement les bons sentiments. En revanche, j'adore les beaux sentiments. Je ne suis pas sûr que la mélancolie soit un bon sentiment, mais c'est un beau sentiment. Et c'est un livre qui est habité, traversé par l'amour en permanence. En permanence. Il peut y avoir des zones d'ombre qui sont celles dues aux circonstances de la vie, parce que la vie est par essence souvent dramatique. Mais en revanche, c'est un tissu continu d'amour. Je vais te répondre par... concernant l'amour de la peinture, je vais te répondre par un passage qu'il y a dans le livre. À un moment donné, Henri conduit Mona devant le Pierrot de Watteau. C'est une œuvre étonnante, pas tout à fait simple, dont on n'est pas sûr à 100% qu'elle soit de Watteau d'ailleurs, sûr à 99,9%, mais toujours un petit doute. Œuvre étonnante, on voit donc un grand personnage en blanc tiré de la Commedia dell'arte, qui est légèrement décentré, peut-être parce que l'œuvre a été redécoupée. Et puis il y a d'autres personnages en contrebas, qui sont d'autres personnages de Commedia dell'arte, et lui, alors qu'il s'agit vraisemblablement d'une enseigne de théâtre, a l'air un peu triste. Légèrement, vraiment, très légèrement. Et Mona commence à comprendre vraiment la profondeur de ce personnage. Elle finit vraiment par l'adorer. Et elle dit à Henri, comment est-ce qu'on peut lui dire qu'on l'aime? Et Henri lui répond, en le regardant comme tu le fais. L'amour de la peinture, c'est la qualité du regard amoureux que nous portons sur elle.
Ouais, c'est très frappant d'arriver à dire ça. Parce qu'au fond, ce que tu dis me fait penser, quand je raconte cette première expérience que j'ai vécue devant Kandinsky, c'est une expérience d'amour. Il y a quelque chose dans cette rencontre, l'œuvre a une sorte de... montre une certaine vérité, quelque chose se montre dans une vérité, et c'est bouleversant. Et là, il y a quelque chose... pédagogiquement, j'aime bien dire, quand on écoute la télé, les informations, nos hommes politiques, c'est très abstrait en réalité. On ne sait pas très bien, ça ne nous parle pas vraiment. Tandis que dans l'œuvre d'art, que les gens trouvent souvent plus abstrait, c'est en réalité beaucoup plus concret parce que c'est un face-à-face, une expérience directe. Et quand l'œuvre nous parle, elle nous parle à un niveau d'intimité qu'on se dit, mais ouais, il y a des œuvres d'art qui me parlent à un niveau d'intimité comme rien d'autre.
Mais tu sais, en plus, ouais, d'ailleurs, à ce sujet, c'est drôle ce que tu dis, parce que l'expérience dans le livre de Mona et de Henri s'opère dans les musées. Mais on peut tout à fait avoir l'expérience d'œuvre dans d'autres cadres, par exemple une galerie, mais aussi chez soi. Souvent, j'entends beaucoup de critiques, voire d'acrimonie à l'endroit des collectionneurs. Mais moi, les collectionneurs que je connais, les œuvres qu'ils ont chez eux, les vrais collectionneurs, c'est pas un problème financier, pas du tout. Ils ne se sépareront jamais des œuvres parce que pour eux, mais c'est une partie de leur chair. C'est très impressionnant à quel point il peut y avoir un lien organique entre un être et une œuvre qu'il s'est appropriée. Et d'ailleurs, qui ne sont pas toujours des œuvres de valeur absolument écrasante sur le plan économique. Et puis tu vois, moi j'ai ça, je dirige une fondation, la fondation Hartung Bergman, et donc je connais maintenant vraiment intimement ces deux artistes que je n'ai pas connus, mais chacune de leurs œuvres, c'est vrai, j'ai l'impression d'avoir un être devant moi. Bien entendu, on ne va pas tomber dans l'obscénité et dire que si jamais ça brûlait, je sauverais l'œuvre plutôt qu'une personne, ce n'est pas ça, mais... C'est pour dire à quel point sur le plan...
C'est intime, c'est profond.
Oui, c'est
voilà,
ça.
C'est un lien de cœur à cœur.
Oui.
Et c'est ça que ton livre invite les gens de redevenir comme cet enfant qu'est Mona, oui. Et d'accepter, peu importe laquelle, de laisser voir comment une œuvre peut parler. Et c'est ça, transformer une vie, parler.
Et tu permets que je dise un dernier truc là-dessus ? À un moment donné, Henri se dit « il faut que je fasse découvrir Delacroix à Mona ». Et finalement, il ne va pas devant Delacroix, il va devant l'hommage à Delacroix, tableau de Fantin-Latour, où il y a Manet, Whistler, Baudelaire, d'autres encore, évidemment Fantin-Latour lui-même, qui sont réunis autour d'un portrait de Delacroix qui vient de mourir, portrait d'ailleurs qui est un portrait qui n'existe pas, c'est une photographie que Fantin-Latour a imaginée sous forme de portrait peint à l'arrière-plan. Et le message, c'est que les morts sont parmi les vivants. Avec la peinture, il y a vraiment une communion d'esprit qui peut avoir lieu. Je répète cette expression de Verlaine que j'adore, avec les voix chères qui se sont tues. Ces voix chères, ce sont celles des artistes eux-mêmes qui ont peint, mais c'est aussi la voix des gens qui peuvent représenter. C'est la voix de toute la communauté des regardeurs qui viennent au musée pour examiner, observer, contempler des tableaux. Et potentiellement, du coup, se crée une sorte de canal transcendantal, par la peinture, on a vraiment l'impression qu'on peut communiquer avec tous les absents. Et donc c'est intime et spirituel en même temps.
Oui, donc il y a toute cette dimension spirituelle qui est au cœur du livre aussi. Ça, c'était quelque chose qui m'a, sur lequel j'ai toujours beaucoup insisté. J'avais toujours beaucoup frappé. Les historiens de l'art souvent effacent la dimension spirituelle des œuvres d'art.
Ouais.
C'est une des choses qui m'a. Alors que les artistes ne parlent quasiment que de ça. Et je trouve que ton livre redonne droit à cette dimension. Parce qu'au fond, les artistes parlent de ça presque tout le temps. Et les historiens de l'art l'effacent tout le temps. Donc c'est vraiment, quand j'avais écrit mon livre sur l'art moderne, c'était une des choses sur lesquelles j'insiste beaucoup. Peut-être on pourrait, parce que tu en parles très bien, de la croix noire de Malevitch. En plus, bon, moi, c'est là-dessus que j'ai fait mon DEA avec Liebenstein.
Avec Jean-Claude Liebenstein,
ouais.
Tu as dû souffrir un petit peu.
Oui, il m'avait fait ce qui va être en rapport
je
à ton livre.
Pas.
J'avais parlé à un moment d'une heure, il m'arrête et il me dit « Vous ne l'avez pas vu ?» Moi, j'avais 20 ans. Je lui dis « Mais si, je l'ai vu. » « Non, vous l'avez vu dans un catalogue, vous ne l'avez pas vu, sinon vous n'en parlerez pas comme ça. » Je lui suis infiniment reconnaissant.
Pas mal.
Ça m'a... Pas mal. D'abord, je ne sais pas comment il a su, mais jamais plus... Je me suis autorisé à parler en détail d'une œuvre sans l'avoir vue, avoir fait ce face-à-face que tu décris dans l'œuvre. Mais moi, à l'époque, je ne voyais pas la différence. Mais voilà, j'avais et là, c'était une leçon. Mais voilà, il y a des claques qu'on reçoit dans la vie qui nous transportent. Et ton livre parle de ça. L'œuvre, c'est une expérience à un moment donné. Le lendemain, on ne vivrait pas la même. Si on a mangé quelque chose, on ne vit peut-être pas la même expérience. Il y a un moment donné, on fait une expérience dans une œuvre.
Oui.
C'est cette expérience qui compte. On ne peut pas en parler intellectuellement. Ça, c'est pas intellectuel, parce qu'on ne peut en parler que dans ce face-à-face. Et il a senti, Liebenstein, qui est vraiment un historien, quelqu'un de remarquable,
sévère, mais érudit extraordinaire.
Ouais, qui a eu une vraie expérience de l'œuvre d'art, voilà, qui ne fait pas partie de ces historiens de l'art enfermés dans l'histoire de l'art, qui a une vraie expérience. Et la preuve, il sentait... que quand j'en parlais, c'était au début, donc j'avais encore eu le temps pour voir toutes les œuvres avant de finir mon mémoire. Mais donc revenons
On se dit un mot de Malevitch, du coup.
Oui, parce que là, je pense que c'est très beau comment tu réussis à en parler.
Malevitch, j'adore parler de Malevitch, parce que, tu vois, sur le réflexe un peu immédiat de méfiance à l'endroit de l'art moderne et contemporain, Malevitch, c'est un... une très bonne illustration. C'est-à-dire qu'en règle générale, on voit le carré noir sur fond blanc, le carré blanc sur fond blanc, ou en l'occurrence au centre Pompidou, la croix noire sur fond blanc, et on se dit c'est juste une provocation gratuite, sans aucun intérêt. Je ne dis pas par ailleurs qu'il n'y a pas un aspect provocateur chez Malevitch. En effet, il s'inscrit historiquement dans la continuité des mouvements d'avant-garde et en particulier du futurisme, où la provocation politique et sociale compte. Donc je ne suis pas en train d'évacuer totalement cette dimension. Mais évidemment que ce n'est pas du tout la dimension principale dans son œuvre. Malevitch, en fait, par ses formes radicalement pures, peut donner le sentiment de poser un point final ou un voile de deuil sur l'art. C'en est terminé, plus que des formes noires, des formes blanches. C'est exactement l'inverse. Exactement l'inverse. Ce que dit Malevitch, c'est par ces formes pures, nous revenons à un degré zéro, le zéro des formes, hein, c'est la phrase, je me suis transformé en zéro des formes, afin que chacun en soi-même puisse faire cette grande expérience singulière de voir émerger ses propres formes et ses propres couleurs, intérieurement. Et c'est ça le suprématisme, hein, Malevitch, le créateur du suprématisme, c'est la suprématie de la couleur pure qu'on va sentir germer en soi pour que tout devienne possible. Autrement dit, je crois qu'il faut prendre Malevitch exactement comme il convient de saisir Stéphane Mallarmé. Pas du tout comme une poésie de la glaciation stérile qui s'observerait elle-même comme un grimoire hermétique à tout, mais comme le frémissement du commencement, là où tous les mouvements, à leur stade le plus élémentaire, commencent à s'effectuer.
Et ce qui est beau dans le livre, c'est que Mona fait cette expérience-là, elle, donc elle ne sait pas tout ce que tu viens de dire, elle se rend compte juste qu'en le regardant, si elle prend le temps, ce n'est pas juste une croix noire sur un fond blanc, mais qu'il y a une vibration, que ce n'est pas du tout quelque chose de géométrique, qu'il y a une sorte de... C'est tellement habité, il y a une telle... c'est vraiment une expérience très simple. À un moment, elle se rend compte que ce qu'elle croyait, une croix noire sur un fond blanc, ce n'est pas une croix noire sur un fond blanc, qu'il suffit d'être sensible, d'aimer, et là, il y a quelque chose qui se métamorphose.
Et c'est ça. Et le bon mot, alors c'est... Là, je renvoie évidemment à tout ton entretien avec Adrien France Lanor. Le bon mot, c'est celui de métamorphose. C'est ça le poétique au sens strict. Voilà, je ne peux pas m'empêcher de citer Mallarmé, du coup. Hein, le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui, va-t-il nous déchirer avec un coup des livres ? Ce lac dur oublié que hante sous le givre, le transparent glacier, des vols qui n'ont pas fui. Malevitch, c'est la libération de tous ces vols. C'est le moment où se fragmente le lac givré et où tout devient possible. Et un dernier mot sur Malevitch.
Oui, du coup.
C'est quelqu'un qui a été aussi puni politiquement d'avoir ces visions. Tellement révolutionnaire et émancipé, non pas tant par l'Empire russe qui chute, que par le communisme le plus intolérant qui va mettre en place la doctrine du réalisme socialiste et qui, à compter donc de la fin des années 20, va brider définitivement toute cette abstraction russe pourtant tellement génial. Et Malevitch en fera les frais et mourra en 1935 dans des conditions qui sont assez tristes.
Je vais lire un extrait du livre parce que je trouve que ça résume ce qu'on essaye de dire. C'est drôle, susurra Mona. Tu vois, au début, on croit que cette croix, c'est juste une croix toute bête. Mais en fait, les lignes penchent un peu. Il y a des choses qui bougent. La croix, elle est vivante. C'est-à-dire, juste ça, c'est très bien dit parce que voilà, ça, c'est l'expérience qu'on peut faire. Elle regarde simplement. Tu invites. Avant d'essayer de comprendre, juste regarder. Et là, en regardant, elle voit, bah oui, les lignes penchent un peu. Il y a des choses qui bougent. La croix, elle est vivante. Elle est vivante parce qu'elle frémit, compléta Henri. Ce qu'exprime Malevitch, ce sont les soubresauts et les rythmes les plus infimes, les plus intimes, qui dictent ensuite à l'univers entier toute sa marche. Sa direction, les rapports de gravité, d'apesanteur, la fluidité, la traversée des espaces, la révolution des atomes et des planètes. Ce qu'exprime Malevitch, c'est ce degré minimal de l'action, son germe, son tremblement initial, à compter duquel tous les possibles existent et se déploient. C'est un appel à la liberté totale. Et je trouve que tu réussis très bien là à montrer, à partir de cette expérience juste du regard, que peut faire un enfant de 10 ans, qu'on entre dans quelque chose qui nous concerne dans notre vie. Et moi, je trouve que c'est très bien dit, c'est vraiment l'expérience que je peux faire devant Malevitch, que d'un seul coup, on retrouve ce rythme plus infime, et c'est ça qui est quand même merveilleux dans la vie, c'est sortir du rythme juste des horloges mécaniques, j'ai telle chose à faire, et revenir à ce rythme qui est un appel à la liberté.
Oui.
Et je trouve que là, je trouve que c'est assez exemplaire du mouvement que, voilà, le livre, en nous montrant ça, nous apprend à redevenir simple, je redis un peu la même chose, laisser tomber le côté juste intellectuel, le côté juste expérience esthétique. Elle n'a pas une expérience esthétique, elle n'a pas une émotion. Elle fait une expérience de ce qu'est la vie, qui est extrêmement simple et extrêmement profond et salutaire.
Et c'est drôle parce que la fin de la deuxième grande partie à Orsay, c'est devant Mondrian, et le message est « simplifie ». Simplifie, en effet.
Alors, je voulais finir notre entretien sur quelques-unes des grandes leçons du livre que je trouve qui se dégagent. Et le premier, alors je ne sais pas du tout si tu vas être d'accord, mais enfin, mon regard, je trouve qu'une des leçons, c'est que la peinture nous appelle à une forme de transe, à une forme d'intensité. Et je trouve ça que c'est un des fils comme ça à l'arrière-plan de ce qui est pour toi l'œuvre d'art.
Mais en effet...
Une sortie de soi.
Deux choses à ce sujet. L'œuvre n'est pas dans le livre, mais voyez si vous en avez l'occasion à Londres le tableau de Poussin, qui est la danse autour du veau d'or, et où je trouve Poussin rend merveilleusement cette transe que peut soulever, là en l'occurrence, donc une sculpture d'un veau, évidemment tiré d'un épisode biblique. Et il y a un passage dans le livre vraiment dédié à cela, c'est celle qui concerne Jackson Pollock, artiste qui lui-même se mettait dans des états qui s'apparentaient à la transe. Et Mona fait une expérience quasiment chamanique en se projetant dans une petite mouche qui se poserait sur un tableau et qui verrait les giclures et les coulures de Pollock tout à coup comme un univers en soi et entrerait de plein pied dans ce cosmos chromatique infini où, en effet, la transe est là, oui.
Donc là, je pense qu'on voit qu'au fond, tous les artistes nous invitent à rentrer dans une intensité de vie. Tu le décris très bien aussi avec Van Gogh. Il y a un surgissement, un sursaut, un éblouissement. Donc il y a plein de vocabulaire qui parle de ça. Tu reviens vraiment à cette expérience. Le deuxième grand fil rouge, j'ai l'impression, c'est s'amuser. J'ai l'impression que l'art, ce que tu montres souvent, c'est que ça nous permet de nous amuser. Ça nous amuse. Il y a quelque chose de vivant, de drôle.
Complètement. Henri le dit à un moment donné devant Marcel Duchamp. Il dit il y a de l'humour dans tout cela. Alors attention, Marcel Duchamp est par ailleurs un artiste d'une intelligence redoutable. C'est peut-être un des artistes les plus à la fois clairvoyant et sophistiqué du XXe siècle. Mais bien évidemment qu'il y a aussi du rire, de l'amusement.
Il s'amuse beaucoup en regardant la peinture.
Tout le temps. Il s'amuse tout le temps, y compris quand il s'ennuie, parce que se surprendre à s'ennuyer dans un musée, mais ça aussi, c'est une expérience ludique. De dire, qu'est-ce qu'on fait là ? Il y a de la légèreté, bien évidemment, qui est d'ailleurs souvent aussi la légèreté des artistes eux-mêmes. Quand on connaît la vie des artistes, on s'aperçoit que parfois c'est un peu lourd, que c'est sérieux, mais enfin, il y a plein de moments où c'est de la bonne camaraderie, où on essaye des choses, on bricole, on s'aime. Tout ça, c'est une grande invitation à cette merveilleuse légèreté de l'être.
Et la troisième chose que j'ai trouvé important disons comme fil rouge de ce que l'art nous apprend, c'est à retrouver le corps. Retrouver le corps, la sensibilité. Tu insistes beaucoup sur la touche, la matérialité, la couleur.
C'est agréable de faire un entretien avec toi, cher Fabrice. Hein. Non, mais je comprends mieux à quel point... parce que tu vises tellement juste et ça me fait tellement plaisir que tu dis ça. Vraiment, c'est hyper chouette. Pardon, l'expression hyper chouette n'était pas aussi, aussi recherchée que...
C'est bien, c'est qu'on s'amuse, que j'ai dit, non, mais ce que j'ai dit, c'est bien, il faut y aller deux. C'est ça qui est bien dans ton livre et c'est ça qui est bien dans la vie, c'est que c'est super chouette et puis on peut citer Mallarmé et que c'est comme ça que les choses sont et sont
mais
vivantes.
Mais Mona, à certains moments, alors ne faites pas ça au Louvre, vous allez vous faire enguirlander, mais Mona, à certains moments, va toucher une peinture de Gainsborough. Elle apprend à quel point les artistes, ce sont des corps qui traversent l'histoire. Et en effet, il y a la corporalité, il y a la matérialité même des œuvres. Il y a l'appel de ce que c'est qu'une matière. Quand on parlait de l'appel des œuvres tout à l'heure, il est évident que quand un artiste a vraiment créer une touche avec une sensualité, ça appelle d'autant plus, sans oublier ce que c'est que la texture d'une sculpture. Le corps, Mona ne va même pas hésiter, pareil, il a fait un peu attention, avec une œuvre de Louise Bourgeois, à se faufiler à l'intérieur de l'installation, à casser ce quatrième mur pour vraiment avoir un engagement corporel entier. C'est tout bête, mais devant la sculpture de Michel-Ange, l'esclave mourant, elle va monter sur les épaules de son grand-père pour... Elle va non seulement faire le tour, mais regarder la sculpture à un autre niveau de lecture. Et tout ça, c'est... J'allais même presque dire, vous savez, on regrette parfois qu'il y ait tant de monde ou des reflets sur les œuvres dans les... Bien sûr, c'est vrai, moi aussi ça m'agace. Mais une œuvre sur laquelle il y a des reflets, on peut même jouer avec ça. Tout est faisable dans la rencontre avec une œuvre.
Il y a aussi un autre aspect, c'est-à-dire l'œuvre d'art nous apprend à retrouver notre corps.
Oui,
je pense qu'une des leçons que tu montres, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais on est très peu en rapport à notre corps. Oui. On est un peu trop dans la tête, on est un peu coupé de la sensibilité. On en parle, mais en fait, on est un peu coupé. Et le rapport aux œuvres d'art, ce temps qu'on passe devant une peinture, nous apprend à redevenir corporellement présent aux autres, à soi-même, oui, et au monde. Et là, il y a quand même une transformation aussi très profonde.
C'est pour ça que je citais Bande à part de Jean-Luc Godard tout à l'heure, même si ça peut sembler là aussi une provocation, le fait d'avoir ces jeunes qui tout à coup déambulent en courant, je ne sais pas si on déambule en courant, donc qui courent dans la grande galerie du Louvre, je pense que pour Godard, c'est une façon d'expliquer, nous sommes d'abord des corps, dans les musées, et c'est une manière assez paroxystique d'en faire la démonstration.
Oui, donc je dirais, voilà ce que je trouve, voilà, c'est que tu montres que l'œuvre d'art nous apprend à rentrer dans une forme de transe, même si on n'a voilà, pas besoin d'aller voir les chamans, une œuvre d'art nous fait rentrer dans un autre monde, nous fait sortir de nous-mêmes, que l'œuvre d'art nous permet de nous amuser, que c'est un jeu, et que l'œuvre d'art nous réapprend à être présent sensiblement, corporellement. Ma dernière question, pourquoi le jaune est ta couleur préférée?
Rien qu'à y penser, ça me fout les larmes aux yeux. C'était la couleur qui me consolait dans mon enfance. Je dessinais beaucoup, et c'est drôle parce que je pensais vers 6-7 ans, et je pense ma famille aussi, que je dessinerais bien, et je dessine horriblement mal. Et quand je prenais des couleurs, j'en mettais plein, évidemment, et s'il n'y avait pas de jaune, je me disais, c'est pas possible, le dessin n'est pas fait, il manque le jaune. Et il suffisait que du jaune vienne sur le papier pour que ce soit une sorte de soleil intérieur. Et depuis, c'est une couleur qui ne me quitte jamais. Je ne peux pas dire que je ne fais pas comme toi, mon cher Fabrice, je ne peux pas dire que je mette beaucoup de jaune quand je m'habille, mais ça peut m'arriver. En revanche, quand Malevitch parlait des couleurs intérieures, de celles qu'on a en chacun de nous, bah, la mienne, c'est le jaune.
Bah, merci beaucoup.
Merci Fabrice.
Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue jusqu'au bout. J'espère que ça vous donnera envie de lire le livre de Thomas, d'aller au musée, de voir des œuvres d'art et de les laisser vous transformer. Je vous embrasse.